Messieurs, dames, bonjour, mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour Marie-Huguette, bonjour Jean-Gilbert, bonjour aux amis, bonjour Manon, bien le bonjour au pasteur André s'il est avec toi, bonjour Louise, bonjour Michel. J'espère que vous allez tous très bien. Merci Marie-Huguette, sois bénie toi aussi dans le précieux nom de Jésus. Hello Pastor David, good morning. Snow is coming our way in about, well, it was supposed to start around 8, but it's still no snow for now. But they say about 10 centimeters till tonight. Qui d'autre est là? Bonjour à mon père, à ma mère. Bonjour Marie-Marthe. Bonjour Guy. Merci, je transmettrai tes salutations à Daphné. Ces temps-ci, elle fait de longues heures au travail. Hier, c'était du 6h30 à 21h. Ouais. Et aujourd'hui, c'est de 6 à 6. Demain, je ne sais pas combien. Ça, c'est pendant 3 semaines comme ça. Thank you, Pastor David. I will greet the snow with a lot of joy. Contrairement à Alex qui parle de 10 cm de tristesse. Et non, Alex, tu vas faire en sorte que ton driveway et puis ton entrée soit la plus belle du quartier. Donc, il n'y a pas de trouble. Bonjour, Lucie. Bonjour, Rosie. Bonjour, Thérèse. Hello, Sylvia. Quand même un peu frais ce matin, je pense que c'était moins 11 quand je suis sorti. Un peu moins froid qu'hier par contre, là, mais et dans la nuit de, je crois que c'est dans la nuit de jeudi à vendredi ou dans la nuit de vendredi à samedi. En tout cas, il y a une nuit où il va faire moins 21 avant même le facteur éolien. Donc ça va rafraîchir pas mal. La sève des érables ne va pas encore couler. On a encore un peu de temps. Bonjour à la belle-mère. Bonjour Pascal. Claude, je viens d'avoir ton texto, mais je n'ai pas vu encore ton nom apparaître. Mais j'ai reçu ton texto. À l'instant. Marie-André, bonjour. Bien le bonjour à Farley aussi. Bien le bonjour à ceux qui se joignent à nous via la page internet de l'église ou via... Là, je vois ton nom, Claude. Alors, bonjour, Claude. Alors, ceux qui se joignent à nous par la page internet de l'église ou par les moteurs de recherche, vos noms n'apparaissent pas, mais on vous salue. Que Dieu vous bénisse et merci d'être là, même si on ne voit pas vos noms. Bonjour à Tati. Que Dieu te bénisse, Tati. Tati, c'est la jeune sœur de mon papa. Bonjour, Janine. Soyez bénis. Merci pour tous vos bons commentaires. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit ces dernières heures concernant notre re-étude du psaume 23 dans l'optique de Jésus est vraiment ici. Donc, je comprends que plusieurs en sont bénis. Donc, merci de m'en avoir fait part. Bonjour à Daniel. Bon, alors comme on est presque à l'heure, Shalom la belle-mère. Alors j'aimerais vous dire aujourd'hui, on est le 1er mars. 1er mars. Et c'est l'anniversaire de mariage de mes parents. Donc on leur souhaite un très joyeux anniversaire de mariage si vous voulez vous joindre à moi pour leur souhaiter un joyeux anniversaire. Il y a mon père et ma mère qui sont connectés ce matin. Donc, vous pouvez leur souhaiter un joyeux anniversaire. Je ne m'aventurerai pas à dire c'est quel anniversaire parce qu'il faudrait que je fasse un calcul en maths et j'ai pas les méninges pour ça. Mais ça devrait être quelque chose comme combien là? Il faudrait que ce soit eux qui nous le disent parce que. Moi, c'est pas un problème si je me rappelle pas, mais si mon père ou ma mère oublie, c'est grave pour eux, là. Moi, je me limite à me rappeler la date d'anniversaire et dans mon cas à moi, la date de notre anniversaire avec Daphné et les années où on en est rendu. Mes parents doivent être à 52, 53. 52, 52, je pense. Je crois. Mais c'est eux qui doivent le dire. Ils vont me corriger, tu vois. Vous allez voir que c'est même pas 52. Et que je vais avoir honte. Mais je vais le cacher. Bonjour à la sœur Linda qui nous regarde depuis l'île Maurice. Bonjour Francine, que Dieu vous bénisse. Myriam Donald, bonjour. Alors, bonjour Babette, bonjour Andreas. Donc, 53. Hey, ils m'ont corrigé, c'était pas 52, c'est 53. Aïe, aïe, aïe. J'ai des moyens de le savoir, mais les méninges sont fatigués ce matin, donc voilà. Alors, on va prier pour débuter. Et puis après ça, on fait la lecture de ce matin. Et pour ceux qui se joignent à nous, vous voyez défiler les joyeux anniversaires. C'est donc l'anniversaire de mes parents. Anniversaire de mariage de mes parents. Alors Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes, merci pour cette occasion que nous avons encore de plonger nos regards dans ta parole et d'être émerveillés par elle, d'être surpris par elle, mais surtout d'être rassasiés, fortifiés et transformés par elle. Seigneur, on n'est pas ici tout simplement pour déguster des choses qui sont croustillantes et puis faire appel à nos sens tout simplement pour être ébahis et surpris. Nous sommes ici, Seigneur, pour recevoir de toi, recevoir la nourriture que tu as préparée de toute éternité et nourriture que tu sais appropriée, salutaire et importante pour nous. Alors, Seigneur, on ouvre notre entendement, ou on te demande d'ouvrir notre entendement. On tire ou on tourne notre attention vers toi et on te demande simplement de nous parler. Dis-nous ce que tu as besoin de nous dire. Dis-nous surtout ce qu'on a besoin d'entendre et que ta parole soit reçue avec un cœur qui est ouvert, avec une pensée qui est disposée et avec une volonté qui est tournée vers toi et vers ta volonté. Alors nous t'avons prié dans le précieux, glorieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors voilà, je lis pour vous le psaume 23 et ce matin on étudie la fin du verset 4. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors je reprends pour vous le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors que Dieu bénisse sa parole. Ce matin. Hier, on a vu la première partie de ce verset que je vous disais probablement mon préféré dans le psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et on a parlé d'expérience personnelle, on a parlé de ces occasions, ces circonstances à travers lesquelles parfois le Seigneur nous fait passer par un sentier qui n'est assurément pas agréable à prime abord, mais dans un sentier dans lequel on découvre sa grâce. Et je disais, malheureusement, on essaie d'éviter la vallée, mais on oublie que notre Dieu est le Dieu des sommets, tout comme il est le Dieu de la vallée, voire le Dieu des abysses. Il n'y a pas d'endroit où on pourrait se trouver, pas d'endroit où on pourrait marcher et qu'il ne soit à nos côtés. Et David va dire, en raison de mes expériences passées, en raison de ce que j'ai connu de toi, la vallée ne me fait plus peur, parce que je sais que même si je me retrouve dans la vallée, j'ai cette assurance que tu es avec moi. Et nous devons nous préparer à ce genre de vallées dans lesquelles nous passons non pas pour notre destruction, mais où nous y passons pour aller rejoindre des pâturages à l'herbe fraîche et à l'eau fraîche et douce. Et aussi des vallées dans lesquelles nous passons pour expérimenter, pour découvrir la protection de notre Dieu, la provision de notre Dieu, l'assistance de notre Dieu et la proximité de notre Dieu, même dans les moments difficiles. Et on continue toujours dans cette même pensée. Jésus est vraiment présent. Le bon berger est vraiment présent. Et étant présent, sa houlette et son bâton me rassurent. David va dire, si je n'ai pas crainte et si je n'ai pas peur de la vallée, c'est parce que tu es là. Et en français, ponctuation qui n'existait pas dans les textes originaux, la ponctuation est venue bien plus tard, la découpe en versets, la découpe en chapitres aussi est venue bien plus tard. C'est ce qu'on appelle les pères de l'Église, les premiers exégèses qui ont fait en sorte qu'on découpe le texte originel dans des livres, dans des chapitres et dans des versets. Et lorsqu'on arrive dans une langue moderne comme le français, les traducteurs vont rajouter « Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » Deux points, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce deux points qui n'existait pas dans la langue originelle, deux points en français annoncent soit une énumération, une raison, et ici, pour nous, c'est David nous explique que si je ne crains aucun mal, c'est parce que tu es avec moi et parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Il n'y a pas simplement que la présence de Dieu, mais il y a aussi, je dirais, je le nommerais comme ça, les outils de Dieu qui rassurent David. Notre Dieu qui est à nos côtés, dans les bons et dans les mauvais moments, n'est jamais dépourvu pour quelque situation qu'on pourrait rencontrer. Il n'y a pas une circonstance de notre vie qu'on traverse et pour laquelle le Seigneur n'aurait pas ce qui se doit d'être ou n'a pas en sa possession ce qui servirait à notre réconfort, à notre soutien, à notre protection et à notre victoire. David va dire, je ne crains aucun mal parce que, oui, tu es avec moi, mais de surcroît à ça, tu as tout ce qui m'est nécessaire. Non seulement la présence de Dieu remplit l'absolue entièreté de mon être et me fait du bien, mais si je parle que Dieu est ici, il est ici pas en tant que touriste, il est ici pas en tant que promeneur qui déambule à droite et à gauche. Non, Dieu fait son travail à notre égard. Il ne pourrait pas être berger. Je vais prendre une petite gorgée. Il ne pourrait pas être le bon berger à moins qu'il ne fasse le travail et qu'il n'ait l'équipement du berger. Un berger avait différentes pièces. Avait une gibecière, c'est ce qu'on appelait le sac du berger. On la voit dans la parole de Dieu lorsqu'on voit David dans 1 Samuel 17 qui va à l'attaque contre Goliath et on voit qu'il va mettre dans son sac des cailloux qu'il pourrait utiliser contre Goliath avec sa fronde. Donc effectivement, il y a la gibecière, il y a la fronde. Mais deux des équipements principaux du berger, c'était sa houlette et son bâton. Alors, juste pour vous citer ou vous illustrer un peu ce qu'est une houlette, c'est une espèce de long bâton avec un crochet, une espèce de J surdimensionné avec donc une boucle au bout. Et le bâton est tout simplement une espèce de matraque, si vous voulez. Un bâton beaucoup plus court, un genre de petit bat de baseball si, pour ceux qui connaissent le sport en Amérique du Nord. Donc, ça serait les deux choses. La houlette, un long bâton, une longue perche avec un crochet au bout, et le bâton, quelque chose qui a la dimension environ une cinquantaine de centimètres, peut-être un peu plus, un mètre maximum, et qui ont deux utilités différentes. En fait, la houlette a plusieurs utilités, le bâton en a une seule. Et on a donné au bâton, et je le mentionnais hier, c'est le pasteur David qui m'a invité la dernière fois que j'ai enseigné sur le psaume 23. J'ai mentionné un truc et il m'a dit, Florent, je faisais la même erreur par le passé, mais d'après mes recherches, il semble que ce qu'on affirme sur le bâton ne soit pas nécessairement un fait fondé dans la vie du berger. Alors, j'ai fait mes recherches moi aussi, et effectivement, il y a un truc qu'on a prêté au bâton, et je l'expliquerai tout à l'heure, qui n'est nullement le cas pour les bergers. Alors, la houlette, tout d'abord, et on reviendra au bâton tout à l'heure. Donc, cette longue perche d'environ 2 mètres, 2 mètres 50, avec un crochet au bout. À quoi ça sert? Ben, parlons du crochet tout d'abord. Ben, le crochet permet de saisir, d'accrocher la brebis par le cou pour la rapprocher du berger. Lorsque le berger voyait une de ses brebis qui commençait à s'éloigner, il l'accrochait par la houlette et la rapprochait de lui. Donc, la première utilité de la houlette, c'est de s'assurer de la proximité des brebis avec le berger. Et ça doit être une merveilleuse nouvelle pour toi. Dieu ne veut pas que tu t'égares. Dieu ne veut pas que je m'éloigne de lui. Il a envie de m'avoir près de lui. Alors sa houlette est là au moment où je suis en train de m'éloigner, au moment où je suis en train de dévier du chemin, sa houlette est là pour me ramener près de lui. Sache une chose, mon frère, ma sœur, mon ami, Dieu veut t'avoir près de lui. Dieu t'aime. Dieu t'aime à un tel point qu'il veut t'avoir en tout temps près de lui. Dieu n'est pas gêné, Dieu n'a pas besoin de cet espace privé dans lequel, de cette bulle dans laquelle on ne rentre pas. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, l'homme a été créé parce que Dieu avait ce désir d'avoir une communion avec sa création. Rappelons-nous ce qui se passait dans le jardin d'Éden. Le soir venu, Dieu descendait dans le jardin d'Éden, marchait avec Adam et Ève et discutait avec Adam et Ève. Et lorsqu'il y a eu le péché originel, le plus grand drame et la plus grande conséquence du péché a été cette rupture de relation avec Dieu. Par la grâce de Dieu à travers la mort et la résurrection de Jésus en tant que sauveur, et par l'Esprit Saint qui habite en nous, cette relation se rétablit entre l'homme et Dieu. Mais Dieu a toujours eu ce désir d'intimité, de proximité, d'amour entre lui et ses brebis, entre lui et ses enfants. Alors la première chose qui me réjouit, c'est de savoir si Jésus est vraiment là. Il est vraiment là pour me tirer même près de lui. Il va faire en sorte que les circonstances, parfois la vallée de l'ombre de la mort, me terrifie et va avoir comme réflexe chez moi de chercher le Seigneur. Et quand le Seigneur voit que je suis en train de m'égarer, il tend sa perche, il tend sa houlette, me saisit par le collet et me ramène près de lui. Alors gardez la brebis près du berger. Si mon berger est à distance, il ne peut pas le faire. S'il est loin, il ne peut pas le faire. S'il est à la bergerie alors que je suis dans les pâturages, il ne peut pas le faire. Et mon berger est toujours, 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 véritablement, vraiment là. Et il fait tout ce qui est en son nécessaire et tout ce qui est dû pour que je m'approche de lui. Alors le premier point avec la houlette, et qui doit me rassurer du fait que le bon berger est là, c'est qu'il fait tout ce qui est nécessaire pour m'approcher de lui. De surcroît à cela, la houlette servait aussi lorsque la brebis s'était égarée et qu'elle tombait dans un trou. Il arrivait parfois, et à l'époque, les puits n'étaient pas entourés nécessairement de pierres avec le seau qui descend avec une manivelle. Ça, c'est beaucoup plus tard que c'est arrivé. À l'époque, c'était des citernes qui se remplissaient avec la pluie, mais l'ouverture était à même le sol. On recouvrait la citerne avec une grosse pierre, mais parfois, cette citerne-là restait béatement ouverte et une brebis pouvait tomber dans une citerne. Pour la sortir d'une citerne, ou si la brebis même était tombée dans un fossé, pour la sortir du fossé, le berger tendait la houlette et saisissait par en dessous des pattes avant, saisissait la brebis et la ramenait à hauteur, la ramenait sur le bon sentier. Alors la houlette est aussi là pour me secourir dans mes propres erreurs. Dans mes propres faux pas, le Seigneur est là et il veut me secourir. Et ça encore, ça doit être un rappel merveilleux pour toi et pour moi. Ça veut dire que Jésus non seulement est à tes côtés, non seulement il est présent, mais Jésus veut te secourir. Il n'y a pas une circonstance, une situation si terrible dans laquelle on se précipite nous-mêmes, pour laquelle Jésus n'a pas une houlette assez longue pour nous en ressortir, pour nous en faire sortir. Alors, il a sa houlette pour m'approcher de lui, il a sa houlette aussi pour me secourir lorsque je suis tombé dans un trou, lorsque je suis tombé dans un précipice ou dans un fossé. La troisième utilité de la houlette, c'est lorsqu'on passe sur un pont. Imaginez cette scène, un petit pont fait tout simplement en bois, sans avoir nécessairement de garde-fou sur les côtés. Alors, quel est le garde-fou du berger à ce moment-là? C'est sa houlette. Il fait passer les brebis une à une sur ce petit pont et il garde la houlette pour soutenir la brebis, pour éviter qu'elle tombe en contrebas. Donc il me protège des faux pas. Il est là lorsque je dois traverser des moments difficiles pour me dire, ma brebis, Florent, marche tout droit. Ne va pas à droite, c'est dangereux. Ne va pas à gauche, c'est dangereux. Marche tout droit. Ça veut dire que il oriente ses brebis en faisant cela. Ça veut dire que non seulement le Seigneur veut nous précéder, il veut avancer et ouvrir le chemin devant nous. On a vu que s'il est présent, il est présent devant nous, il est présent derrière nous. Il est présent aussi sur les côtés. Et sa houlette fait en sorte que le Seigneur me donne toutes les opportunités, toutes les occasions de ne pas m'égarer. Lorsque je me soumets à la voix de mon berger, lorsque je me soumets à l'action et au travail de mon berger, ce berger céleste évite les faux pas. Les faux pas surviennent lorsque je ferme mes oreilles à sa voix, lorsque je ferme mes yeux à sa personne, lorsque je détourne le regard de lui, c'est là où je me mets en risque et en péril. Mais sa houlette va être là pour me garder près de lui, va être là pour orienter mon chemin, va être là pour me secourir si je tombe, va être là aussi pour me protéger des faux pas. Dernier point concernant la houlette aussi tient au loin l'ennemi. Lorsque le lionceau venait, la houlette était le premier instrument que le berger utilisait. Ce n'était pas son bâton, c'était sa houlette qui permettait avec un bout pointu de piquer la bête qui rugissait, de pousser plus loin la bête qui rugissait, qui interdisait par conséquent à la bête de s'approcher au-delà d'une certaine distance. Et la pensée qui me vient à l'esprit, c'est la pensée de Job. Job va passer par une vallée terrible. Mais même dans la difficulté immense que Job va traverser, Dieu va porter des limites à l'action du diable. On se rappelle cette histoire. Le diable vient d'aller se promener un peu partout sur terre. Pour X raisons, il se présente devant Dieu et Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y en a aucun comme lui sur terre. Il n'y a aucun homme intègre comme lui. Et le diable va dire à Dieu, ouais, mais si tu enlèves ceci, si tu lui enlèves cela, alors il va te renier très facilement. Et Dieu va lui dire, fais ce que tu dis, mais ne touche pas à sa vie. Et à chaque fois où le diable va revenir, Dieu va dire, fais ce que tu dis, mais je t'interdis d'outrepasser une certaine limite. Voilà pourquoi on peut avoir cette assurance qu'effectivement, on ne sera pas tenté au-dessus de nos forces. C'est un mensonge du diable de croire que je ne peux pas résister. C'est un mensonge du diable qui me laisse croire que je ne peux pas sortir vainqueur. C'est un mensonge du diable qui me laisse croire que je ne peux pas vivre sans péché. Lorsque Jésus va dire à des pécheresses, à des hommes pécheurs, lorsqu'il va leur dire « va et ne pêche plus », ben il leur dit clairement « ne pêche plus ». Jésus ne demande pas quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire. En fait, si nous suivons la parole de Dieu, il nous est possible de ne pas pécher, malgré notre nature pécheresse. Si ce matin on décidait d'appliquer en tout instant, en toute circonstance, en toute situation, si on dit, on se décidait aujourd'hui d'appliquer pleinement la parole de Dieu, de veiller à nos pas, de veiller au chemin qu'on emprunte, de rester sensible à la voix de Dieu, d'obéir à ses commandements, à ses préceptes, nous fuirions alors la vie de péché. Nous sommes capables de résister au diable. Dieu poste des limites à l'action du diable. Il y a des choses qu'il ne peut pas dépasser. Et ces choses qu'il ne peut pas dépasser, ce sont les limites de tes capacités. Il ne peut pas t'attaquer au-delà de ce que tu es capable de supporter. Voilà pourquoi lorsque moi, je suis passé par mes moments difficiles, j'ai dit à Daphné, j'ai dit, regarde, s'il y a quelqu'un qui peut passer à travers, je pense que je peux le faire. J'ai dit, je pense que je peux le faire parce que j'ai pas voulu paraître trop orgueilleux non plus. Mais en fait, ma pensée, c'était, si Jésus me permet et me conduit dans ce chemin-là, c'est qu'il va me donner tout ce qui est nécessaire pour que je puisse traverser cela. Et par conséquent, mon épouse étant à mes côtés, s'il permet à mon épouse de passer avec moi à travers ce chemin, c'est qu'elle est elle aussi capable de traverser cette épreuve. Ça n'a pas été facile. Ça a été demandant. Ça a été exigeant. Parfois, ça a été terrorisant. Mais on revenait à cette pensée. Puisque tu le permets, Seigneur, tu nous donnes aussi tout ce qui est nécessaire pour passer à travers. Et tu ne permettras pas au diable d'aller au-delà de ce qui lui est autorisé. Tu ne permettras pas au diable d'aller au-delà de ce que je suis capable de supporter. Et c'est la houlette du berger qui tient le fauve à distance. Dieu fait qu'il y a une limite à ce que le diable peut exercer contre toi. Alors mon frère, si on comprend ça, on comprend aussi que lorsque je cède, c'est toujours trop tôt. Lorsque je capitule face au péché, je n'ai pas vécu à la hauteur de ce que mon Créateur, de ce que mon berger avait prévu pour moi. Lorsque je capitule devant le péché, c'est toujours trop tôt. Nous avons en nous tout ce qui est nécessaire. Nous avons avec nous tout ce qui est nécessaire pour ne pas céder. Pour ne pas céder. Je le répète, nous avons en nous et avec nous tout ce qui est nécessaire pour ne pas céder devant le diable. Mon frère, toutes les fois où tu es tombé, tu as capitulé trop tôt. Ma sœur, toutes les fois où tu es passé à côté d'une victoire, tu as cédé trop tôt. Dieu ne t'a pas appelé à la défaite. Dieu ne t'a pas appelé à l'échec. C'est juste que tu n'avais pas compris combien Dieu limite le diable dans son action envers toi. À partir d'aujourd'hui, mon ami, mon frère, ma sœur, vis ta vie avec Christ, avec cette pensée que peu importe là où tu passes, peu importe les circonstances que tu traverses, il te donne tout ce qui est nécessaire. Il t'amène tout ce qui est nécessaire pour que tu puisses vaincre l'ennemi et sortir victorieux. Et sa houlette va tenir l'ennemi à distance. Il peut rugir, il peut faire du bruit, il peut être menaçant, il peut même te griffer en étendant la patte. Mais il y a une limite à l'action que le diable peut avoir à ton encontre. Pourquoi? Parce que la houlette du berger est là. Parce que mon berger sait manier la houlette et il sait comment tenir à distance mon ennemi. Passons maintenant à l'autre instrument, le bâton. Alors, je vous explique le faux pas qu'on fait régulièrement et je l'ai fait depuis des années. Le faux pas, c'est de dire que le bâton sert notamment pour me corriger. Il y a ce faux concept qui existe et je vous dis, je suis allé chercher à droite et à gauche dans des textes chrétiens, dans des textes plutôt hébraïques, dans des textes qui ont trait à la vie du berger et pas des textes religieux, des textes laïques. Et en aucun endroit, j'ai trouvé ce faux concept qu'on a véhiculé si souvent, comme quoi, si le berger voit que je m'éloigne trop souvent, il me casse la patte, il me casse la jambe pour me tenir sur ses épaules. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas dans le fait de terroriser ses brebis. Dieu n'est pas dans le fait d'handicaper ses brebis. Une brebis qui a une jambe cassée, c'est une brebis qui n'est plus parfaite. Même si sa patte se régénère et se guérit, elle aura toujours la marque de cette fracture. Dieu veut faire de nous des brebis parfaites. Il ne peut pas fracturer nos os et fragiliser nos pattes. Dieu n'est pas dans ce genre de technique-là. C'est une erreur de croire, et je l'ai fait régulièrement, et je m'en excuse et je m'en repens. J'ai fait régulièrement l'erreur de prétendre qu'effectivement le bâton servait aussi pour notre correction. Dieu ne brise pas les pattes de ses brebis. Ceci étant dit, à quoi sert le bâton? Ben, le bâton sert aux fauves. Le bâton sert au diable. Le bâton sert aux animaux de proie qui, tenaces, ne voulant pas respecter la distance qu'impose la houlette, à un moment donné, Dieu dit, c'en est suffisant, là. C'en est assez. Tu as rugi autant que tu as voulu rugir. Tu as grogné autant que tu as voulu grogner. Tu as fait du bruit autant que tu as voulu faire du bruit. Maintenant, tu vas partir. Et le berger, à ce moment-là, courait vers la bête sauvage et la frappait de ce bâton. Le bâton n'est pas pour toi, mon ami. Le bâton, c'est pas Dieu envers toi. Le bâton, c'est Dieu envers nos ennemis. Et c'est là où le verset qui nous dit « À lui appartient toute la vengeance et la rétribution. » Ça prend toute sa proportion ou ça prend toute sa grandeur. La vengeance est à Dieu, la rétribution est à Dieu, pas à nous. Une brebis n'a rien pour se venger. Une brebis n'a pas de cornes. Une brebis n'a pas de dents à serrer. Une brebis n'a pas de griffes à serrer. Une brebis n'a pas de carapace. Une brebis n'a pas d'épines. Une brebis n'a strictement rien pour se protéger. Sa protection, c'est le berger. Et nous devrions dépendre de Christ qui est à nos côtés comme la brebis dépend de Christ. Pourquoi symbolise-t-on le chrétien, l'enfant de Dieu, comme une brebis? Ben c'est parce que c'est celle qui se réfugie auprès de son berger lorsqu'elle a peur. C'est celle qui se réfugie auprès de son maître lorsqu'elle est en danger. Et c'est celle qui reste calme malgré la présence du fauve. Pourquoi? Parce qu'elle sait que son berger est à l'œuvre. David dit, regarde Seigneur, je suis comme une brebis auprès de toi. Mais je n'ai pas peur dans la vallée de l'ombre de la mort. Je n'ai pas peur quand le fauve se présente contre moi. Je n'ai pas peur quand l'ours se présente contre moi. Je n'ai pas peur quand le lion se présente contre moi. Parce que je sais que tu es avec moi. J'ai rien par moi-même pour me protéger. Je ne peux dépendre que de toi. Et Seigneur, je n'ai aucune crainte à dépendre de toi. Seigneur, je n'ai aucune peur à dépendre de toi parce que je sais qu'avec ta houlette et avec ton bâton, tu vas faire tout ce qui est nécessaire. Et voilà pourquoi même dans la tempête, on peut rester calme. Et voilà pourquoi même sous attaque, on peut rester calme. Et voilà pourquoi même dans les rugissements, dans les aboiements féroces, sous les coups de griffes, on peut encore rester calme parce qu'on sait que notre berger est là. Il tient à distance le fauve et le moment venu, son bâton va poursuivre notre assaillant. Il y a un moment donné où le berger dit « c'en est assez ». Tu as rugi jusqu'à présent, maintenant c'en est assez. Tu as tendu tes griffes jusqu'à présent, maintenant c'en est assez. Tu as menacé jusqu'à présent, maintenant c'en est assez. Et il se lève et il court contre le fauve, il court contre l'ennemi et le bastonne comme il est nécessaire. Le bâton n'est pas pour toi, mon ami. Dieu n'est pas un père fouettard. Il n'enseigne pas à ses brebis à le suivre dans la peur et dans la terreur. Il enseigne à ses brebis de le suivre et d'être à proximité de lui, tout simplement parce qu'on comprend qu'il n'y a pas un endroit plus sécuritaire pour nous que d'être collé, proche, de notre Maître, de notre Seigneur, de notre bon berger. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ce que tu fais à notre égard. Tu nous protèges de nous-mêmes et tu nous protèges de notre ennemi. Tu nous protèges de nos faux pas. Tu nous restaures même quand on s'est éloigné. Tu nous ramènes à toi. Tu nous ramènes sur la terre ferme. Tu nous sors des précipices, des trous et des fossés dans lesquels on peut se retrouver si régulièrement lorsqu'on ne veut pas entendre écouter ta voix. Et tu tiens à distance notre ennemi. Et à un moment donné, le moment venu, tu le fais fuir avec ton bâton. Alors merci Seigneur. Nous sommes tes brebis. Nous sommes tes brebis. Tu ne laisses pas qu'on soit éprouvé au-dessus de nos forces. Tu ne laisses pas l'ennemi libre de faire ce qu'il a envie de faire contre nous. Tu lui imposes des limites et à un moment donné, tu lui dis « Maintenant, ça suffit. » Alors je prie, Seigneur, que ma sœur tienne bon jusqu'à ce « Maintenant, ça suffit. » Je prie que mon frère ne cède pas jusqu'à ce moment où tu dis « Maintenant, ça suffit. » Mon frère ne lâche pas. Ma sœur ne capitule pas. C'est trop tôt. Reste ferme jusqu'à cet instant précieux où le berger dit « Maintenant, ça suffit. » Et à ce moment-là, contemple ton berger à l'œuvre. Celui pour qui, à qui appartient la vengeance et la rétribution. Celui qui protège et qui libère ses brebis de l'attaque et de la peur de notre ennemi. Merci Seigneur d'être qui tu es. Merci de ce que tu es le bon berger à nos côtés. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Merveilleux message que le Seigneur avait pour nous ce matin et je suis content de l'avoir partagé avec vous. Mon frère, ma sœur, ne lâche pas. Ne lâche pas, c'est trop tôt. Ne lâche pas. Tu es capable de tenir. Et je prie que cette pensée t'environne, cette pensée te remplisse et que tu restes ferme. Le bon berger est là. Ne lâche pas. Alors, on vous rappelle ce soir, rendez-vous avec le pasteur André. On reprend les cours qu'on avait donnés il y a déjà quelques mois en présentiel. C'est les fondements chrétiens. Donc, tous les cours qu'on n'avait pas encore donnés en ligne, le pasteur André reprend chacun de ces chapitres-là, cette fois-ci donc en ligne. Donc, vous avez rendez-vous à 19h sur toutes les plateformes Internet habituelles de l'Église. Pour nous, on se retrouve demain matin pour notre prochaine bénédiction matinale. On vous rappelle que mercredi soir et dimanche matin, il n'y a plus de restrictions d'âge, il n'y a plus de restrictions quant au passeport vaccinal. On peut tous être là, même les sièges maintenant vont être rapprochés pour l'Assemblée. Donc le seul petit petite désagréable, on va dire, c'est le port du masque, mais ça va éventuellement tomber aussi. Donc pas d'inscription, pas de restriction d'âge. Vous êtes les bienvenus ce mercredi et ce dimanche pour l'Assemblée. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Et encore une fois, je ne veux pas vous quitter sans vous le redire. Mon frère, ne lâche pas. Ma sœur, n'abandonne pas. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Jésus est vraiment là. Que Dieu vous bénisse.